Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du grand entretien avec Christiane Taubira. Hier, nous avons longtemps évoqué les femmes qui l'inspirent et les femmes qui traversent les nouvelles de son recueil, récemment publié sous le titre « Ses morceaux de vie comme carreaux cassés » aux éditions Robert Laffont. Et aujourd'hui, nous reprenons notre conversation avec l'écrivaine et ancienne garde des Sceaux pour évoquer des sujets qui touchent aussi à la politique. À commencer par la loi qui porte son nom, la loi dite Taubira, adoptée par le Parlement il y a 20 ans exactement, un texte qui inscrivait la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Et ici, dans son recueil, on en trouve un écho avec la toute dernière nouvelle qui donne la parole à Claire, une esclave qui fait le récit de toutes les horreurs dont elle est témoin et qu'elle subit. Des souffrances, des vies brisées, des injustices que l'auteur restitue sans faiblir parce que, comme nous le rappelle Christiane Taubira, il ne faut jamais oublier.
Non, il ne faut pas oublier parce que nous sommes faits de nos passés, de nos passés au pluriel. Il ne faut pas oublier parce que c'est là que nous puisons à la fois notre énergie, notre connaissance du monde, notre sensibilité aux autres, nos fragilités conscientes. C'est le passé aussi qui nous enseigne tous ceux qu'on a surmontés et donc tous ceux qu'on peut surmonter. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que le passé a été profondément vivant et charnel. Il y a des gens qui se disputent sur le passé comme si c'était des concepts historiques. Mais non, il y avait des gens qui vivaient à ces moments-là. Il y a des gens qui souffraient à ces moments-là. Il y a des gens qui dormaient, qui se levaient, qui avaient peur. Il y a des gens qui chantaient. Il y a des gens qui inventaient toutes sortes de ruses pour survivre et qui ont inventé des musiques dont on se réjouit aujourd'hui, hein, le jazz par exemple, qui ont inventé des façons de reprendre possession de leur corps puisque leur corps leur était enlevé, c'était devenu une marchandise, c'était inscrit comme un meuble dans la loi et qui reprenaient possession de leur corps en dansant, en inventant des gestes, en combinant à la fois le besoin de plasticité du corps et les contraintes physiques. Ils n'avaient pas d'espace, ils n'avaient pas de place, parfois ils étaient encore enchaînés. Il y a des danses d'ailleurs qui sont des danses traditionnelles de plusieurs parties du monde qu'on retrouve dans la Caraïbe, en Amérique du Sud, mais qu'on retrouve aussi dans l'océan Indien et qui sont des danses où les gestes ont l'air très contraints. Et les chercheurs nous ont révélé que ces gestes sont contraints parce que ce sont des danses qui ont été inventées alors que les esclaves étaient enchaînés. Donc, ils ont appris à jouer avec les entraves et pourtant à donner de la plasticité, de l'élasticité à leur corps. Donc, si on comprend que le passé, c'est tout ça, ces personnes qui ont vécu, ont souffert, ont chanté, ont ri, ont pleuré, ont marronné, ont, comment dire, incendié des plantations.
Mais ont été martyrisées aussi.
Voilà, ont souffert, ont eu des scarifications, des traces de foi, etc. On comprend que le passé est précieux. Il est précieux d'abord par loyauté vis-à-vis de ces personnes-là. Ensuite, par compréhension de nous-mêmes, nous qui en venons, et nous en venons tous, c'est la première mondialisation, c'est le brassage, c'est la rencontre, évidemment, c'est le viol, c'est la mise en esclavage, c'est la vente d'êtres humains, c'est une violence quotidienne, mais c'est aussi des histoires d'amour complètement inattendues et impromptues. Ce sont des viols qui donnent des enfants qui portent des gènes et aussi des mémoires culturelles des deux parties antagoniques. C'est tout cela le passé, c'est tout cela le passé. Et nous devons à ce passé d'abord de la gratitude, quelle que soit sa violence, sa brutalité, son horreur, nous lui devons de la gratitude parce que nous lui devons d'être là aujourd'hui. Et je pense que c'est s'élever humainement, c'est s'élever que d'être capable de regarder ce passé, de le décortiquer, de l'interroger. Donc moi j'ai beaucoup de respect pour les gens, y compris les gens qui sont très malheureux de ce passé, qui sont gênés par ce passé, j'ai du respect pour eux. Ceux qui sont dans la querelle idiote, moi j'ai, voilà, je les regarde même pas de haut parce que ce serait gaspiller mon regard, mais à la limite je les plaindrais presque.
Claire, qui en s'enfuyant brise les chaînes, évidemment avec les esclavagistes, elle peut donc retrouver son identité et elle va ainsi reprendre son nom secret, Nzuri. Il y a aussi d'autres allusions aux prénoms dans ce livre, Christiane Taubira par exemple. On a beau avoir des prénoms plus chrétiens que Malik, ça ne fera pas de différence. Ils s'en foutent de nos papiers d'identité. On a les faciès pareils. Ça suffit à ceux qui tuent pour ça. Fermez les guillemets. Un commentaire sur cette question des prénoms qui semble obséder en ce moment un homme qui vise la prochaine présidentielle, Christiane Taubira.
Alors, pardon, mais cet homme étant absolument sans intérêt.
On ne le cite pas d'ailleurs.
Je ne gaspille pas mon intelligence à le commenter, ni même à chercher à le comprendre. C'est de la démagogie, hein. En politique, je veux dire que tous ces débats-là qui sont dans l'espace public et qui le polluent considérablement, alors que nous sommes dans une vraie mondialisation. Nous sommes à un instant, pour les jeunes générations, nous sommes à un instant du monde où il peut nous arriver à la fois le pire et le meilleur. Le pire, c'est cette mondialisation brutale, avec toutes ces violences, ces inégalités, ces injustices, ces égoïsmes, ces arrogances, ces vulgarités, hein, ces richesses, ces spéculations, etc. C'est le pire qui est déjà là, hein, qui arrive, et le meilleur, c'est la possibilité de circulation, c'est le fait d'avoir des amitiés lointaines, c'est le fait de découvrir des cultures, des langues, des modes de vie, des arts, des expressions culturelles, des gastronomies, des danses, etc. De découvrir en fait la totalité du patrimoine actif de l'humanité, c'est le meilleur. Donc nous sommes dans ces moments-là. Donc les diversions imbéciles qui consistent à convoquer l'attention des gens sur des histoires aussi idiotes que les prénoms. Voilà, ce sont juste des diversions imbéciles et je pense que ce pays va retrouver ses esprits, j'y crois. Ce pays sera capable de retrouver ses esprits et d'abord de dire que les prénoms signifient quelque chose et c'est très bien et c'est tant mieux. Et que les gens qui ont des problèmes avec ça, si c'est leur thérapie de venir baver des imbécilités absolues dans l'espace public, bon voilà. On participe tous à les soigner, mais ça va, faut pas qu'ils envahissent trop non plus.
Mais à partir du moment où cet homme va se présenter comme candidat à la présidence et donc va continuer de poursuivre ce discours dans le débat public, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Qu'est-ce qu'on peut dire à tous les gens qui ont ces prénoms?
Alors d'abord que cette parole-là est une parole qui n'a aucune légitimité, donc les gens ont leur prénom, leurs parents sont fondés à leur donner leur prénom. En tant que parents, ils ont cette légitimité-là, et ils l'ont en tant que citoyennes et citoyens. C'est-à-dire que dans notre démocratie, ce sont les parents qui donnent les prénoms. Donc c'est RAS, rien à signaler. Il n'y a pas de sujet là, il n'y a pas de débat. Voilà, effectivement, et merci de le poser comme ça, Catherine Fauchon-Toussaint. Merci de le poser ainsi. C'est-à-dire, que dit-on aux personnes qui ont ces prénoms-là? Non pas que dit-on à ceux qui crachent la haine sous toutes les formes et qui disent qu'ils veulent pas. Non, que dit-on aux personnes qui effectivement peuvent se sentir mises en cause, peuvent tout d'un coup être dans une position sociale précaire dans notre pays, dans notre société, parce que ces personnes se disent, mais est-ce que je ne suis pas bienvenue? Est-ce que je suis hors la loi? Est-ce que, du coup, je deviens repérable? Et ça veut dire quelque chose, hein, d'être repérable par une marque, par un indice, par quelque chose qui nous est intrinsèque. Ça veut dire quelque chose dans la mémoire de ce pays, et pas une mémoire si lointaine que ça. Ça veut dire quelque chose. Nous sommes porteurs et porteuses de tout cela. Nous sommes les sentinelles de cela. Et nous devons faire en sorte que ça ne prospère pas. Ça ne prospère pas. Dans ce pays, on a le droit de porter le prénom que l'on veut. On a le droit d'appartenir à des cultures multiples. On a le droit d'avoir les croyances que l'on a choisies ou que l'on a héritées de ses parents et que l'on a décidé de conserver. On a le droit de cela et on reste pleinement citoyennes et citoyens. Et qu'on y prenne garde. Parce que ce qui vaut pour une catégorie finit par valoir pour les autres. Qu'on y prenne garde, parce qu'ils nous mettent tous en danger. Donc effectivement, c'est à celles et ceux qui sont visés que nous devons parler. Merci d'avoir vos prénoms. Ils enrichissent la palette des prénoms possibles dans ce pays. Ils nous rappellent que des prénoms signifient des choses, nous renvoient à des choses qui sont imaginaires, qui sont réelles, qui sont littéraires, qui sont artistiques. Ils nous renvoient à tout ça. Donc, vous êtes du plus, chacune, chacun d'entre vous, avec votre prénom spécifique. Vous êtes du plus dans ce pays et on vous dit merci.
Christiane Taubira, il y a encore des combats là à mener. Comment est-ce que vous allez vivre la prochaine présidentielle? Vous avez envie d'y participer d'une façon ou d'une autre, de retrouver un engagement politique pour ce sujet, par exemple?
C'est un grand rendez-vous, donc voilà, c'est un grand rendez-vous. Et quand on y a goûté, on sait que c'est un moment de vie collective, indépendamment du résultat en tant que tel. C'est un grand moment de vie collective. Il faut que ça le redevienne puissamment. Donc oui, moi j'espère y participer.
À quel titre, Christiane Taubira? Un engagement politique, une fonction?
Alors moi, on me demande des choses quand même assez paradoxales, c'est-à-dire que soit on me demande d'être, voilà, pour avoir une légitimité de parole, d'être candidate ou d'être ci ou d'être ça, d'avoir une fonction, d'avoir ci, d'avoir ça. Soit on me demande en même temps, et parfois à la même personne d'ailleurs, ben de parler en toutes circonstances, de parler parce que ma voix porte, etc. Bon, il y a un moment, il faudra qu'ils choisissent, parce que moi j'ai choisi, je suis claire. J'avance avec la société, c'est-à-dire que nous sommes dans une période un peu intermédiaire, qui devient de moins en moins intermédiaire, évidemment. Hein, plus nous avançons dans le temps, il y a des choses qui se clarifient. Il y a des choses qui sont clarifiées, par exemple, chez les écologistes, par exemple. Donc, il y a un calendrier comme ça qui précède l'échéance présidentielle. Il y a des étapes, il y a des choses qui se clarifient. Donc, oui, j'ai été sollicitée. Oui, il y a des personnes qui se sont mobilisées pendant plusieurs mois. Oui, il y a eu des appels tout à fait publics, etc. Mais je suis claire, je l'ai été, je vais le rester. J'estime que les enjeux sont colossaux. J'estime que la responsabilité des gauches est considérable. Et j'estime qu'il y a des conditions pour que cette responsabilité puisse être agissante. Non pas juste parlante, mais agissante. C'est-à-dire se donner les moyens d'augmenter les chances de pouvoir faire. Pas juste de venir parler. Si c'est pour parler, je peux parler. Je peux parler sans avoir de titre. Je peux parler aussi en me mettant, en m'alignant sur la ligne des candidatures. Enfin bon, voilà. Donc, on va me trouver un plot supplémentaire, hein, pour prendre la ligne de départ. Ça peut se faire.
Donc, vous ne fermez pas la porte à la candidature à la présidence?
Je dis très clairement, sans la moindre ambiguïté, que ma conviction du temps que nous traversons et des exigences de ce temps m'interdit de considérer que je puisse ajouter une candidature aux candidatures déjà annoncées. Je le dis très clairement et sans ambiguïté.
Donc c'est non.
Dans l'état actuel des choses, c'est non, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne saurais pas à la fois expliquer, mais il faut se battre pour que voilà, nous ayons des politiques d'égalité, des politiques de rétablissement des services publics, des politiques d'accès égalitaire à l'éducation, des politiques d'élimination de tous les mécanismes d'exclusion, des politiques de justice sociale dans tous les secteurs d'activité, des politiques d'institutions qui soient justes et qui soient décentes. Je ne peux pas dire ça et en même temps dire, voilà, moi je viens apporter, je viens prendre ma part de la fraction de l'électorat. Voilà, il y a une vingtaine d'années, j'étais candidate à l'élection présidentielle, j'ai porté des idées, et j'ai porté des idées comme ça, en tant que telle, c'est-à-dire que, voilà, j'avais un programme sur la 6e République, j'avais un programme de réforme sur l'Union européenne, j'avais un programme sur la cohésion sociale, sur les valeurs, sur la fraternité, parce que c'était les fractures étaient de plus en plus visibles et profondes dans la société, je commençais à être connue, je pouvais porter des idées. Depuis, j'ai eu 20 ans de combat supplémentaire. Les gens ont le droit d'attendre de moi, non pas simplement de venir porter des idées, mais de livrer un combat en mettant un maximum de force pour gagner ce combat. Les gens ont le droit d'attendre ça de moi. Donc moi, je ne peux pas me contenter de leur répondre gentiment, ben oui, je vais prendre ma place à côté et porter mes idées, les idées que vous aimez m'entendre défendre. J'estime qu'aujourd'hui, les gens ont le droit de me dire, si vous allez au combat, vous mettez toute la gomme, vous mettez tout votre jus, vous mettez tout ce que vous avez de façon à essayer de gagner. Il faut viser de gagner. C'est pas vous venez apporter vos idées à côté d'autres qui apportent leurs idées.
Mais vous pensez que vous ne pourriez pas gagner, Christiane Taubira?
Je peux pas gagner avec une gauche morcelée, Catherine Fréchon-Toussaint. Moi, je suis absolument sûre de ça. C'est à la fois arithmétique et politique.
Alors, si c'est pas en politique, en tout cas, votre combat aujourd'hui, c'est aussi par la littérature, ce qu'on transmet par les mots. Par exemple, comme le fait Claire à ses descendantes, Céline et Cécile, qui à travers le temps vont lire et recevoir le témoignage de leur aïeul, 6 pages manuscrites de sa main où elle raconte C'est aussi cet héritage-là que vous avez envie de laisser aujourd'hui, Christiane Taubira, l'héritage qui passe par la littérature, par la culture.
Moi, j'ai tellement reçu de la littérature. J'ai vraiment grandi grâce à la littérature. J'ai grandi au sens où j'ai trouvé des consolations à toutes les frustrations, toutes les privations, toutes les difficultés. J'y ai trouvé par les imaginaires qui venaient de cultures dont je n'avais même pas conscience de l'existence. J'ai trouvé des façons d'être humain, des façons d'affronter l'adversité, des façons de rire, des façons de pleurer, des façons d'être solidaire, des façons de se soucier des autres, de se tromper, des façons d'être égoïste et de se casser la figure. J'ai trouvé tout ça dans la littérature. J'ai trouvé des raisons de m'inquiéter dans la littérature. J'ai trouvé de belles solidarités. J'ai trouvé de beaux sacrifices. J'ai tout trouvé dans la littérature. Donc j'ai grandi vraiment en étant constamment façonnée, y compris à mon insu, c'est-à-dire que ça nourrissait une sève. Ça ne me donnait pas un mode de vie, ça ne me donnait pas un mode de conduite, mais ça nourrit ma sève. Et voilà, ça m'a permis, puis ça m'a beaucoup soutenue dans des tas de combats. C'est la littérature qui m'a ouvert des lucarnes.
Et en même temps, aujourd'hui, vous avez cette liberté, peut-être plus de temps pour écrire davantage en Guyane.
Oui, parce que bon, l'année dernière, nous étions confinés assez longuement, donc j'ai eu le temps d'écrire un roman.
Maintenant, les nouvelles.
Cette année, c'était moins lourd un peu, donc des nouvelles. J'aime beaucoup le genre des nouvelles. Je pensais pas m'y aventurer, mais j'aime beaucoup ce genre-là parce que je trouve que c'est un exercice littéraire plutôt complexe, très exigeant et plutôt ingrat, c'est-à-dire que il suffit d'un rien pour louper une nouvelle. Il suffit vraiment d'un rien. Moi, j'ai beaucoup lu de nouvelles quand j'étais adolescente. J'en ai lu quand j'étais jeune adulte. Récemment, j'en ai beaucoup, beaucoup moins lu. Mais il suffit d'un rien vraiment pour louper une nouvelle. Donc, j'aime ce truc, cette espèce de danse au bord du gouffre, cette espèce de funambulisme. Hein, on marche sur la corde danse. On danse soi-même pour établir l'équilibre. Mais voilà, il y a la chute possible. Donc, j'aime cet état de risque permanent dans les nouvelles.
Restons sur cette littérature. Je voudrais entendre un dernier mot. Ce livre, vous allez pouvoir le présenter en Guyane aussi, j'espère. Qu'est-ce que vous attendez des retours des lecteurs, des lectrices avec qui vous allez pouvoir partager ces histoires ?
Alors, sincèrement, je n'attends rien de précis dans la mesure où j'aime être surprise. Et je l'ai été sur mes livres précédents, que ce soit des essais, mais j'ai été très, 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 je dirais pas favorablement, parce que ça voudrait dire que j'avais un préjugé inférieur, mais j'étais très, très agréablement surprise de la lecture qui a été faite du roman Grand Ballant.
Qui vient de paraître d'ailleurs en poche, c'est très important aussi de le préciser, parce que ça touche toujours à un autre public.
Ah oui, absolument, absolument. Donc moi, j'ai été vraiment très agréablement surprise, parce que c'était une lecture extrêmement profonde et subtile. Dans les échanges, parce qu'on m'a proposé des échanges, j'ai fait des centres de dédicaces, mais aussi des échanges. J'ai été surprise d'ailleurs par une lecture féminine de Grand Ballant. Des choses que des femmes dans la salle ont relevées, qui étaient des choses essentielles, mais sur lesquelles je ne m'étais pas appesantie, c'est-à-dire je les avais dites, mais je les avais dites peut-être en 5-6 phrases. Et il y a des lectrices comme ça qui ont relevé ça, qui m'ont posé des questions, donc qui m'ont permis d'approfondir, etc. Il y a parfois des surprises aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai pensé comme relativement anodines et qui sont prises d'une façon plus consistante par les lectrices ou les lecteurs, et qui développent et qui raccordent à autre chose, et qui ci et qui ça, etc. Donc voilà, moi je ne m'attends à rien parce que je me rends complètement disponible de façon à accueillir tous ceux qu'on peut m'apporter comme surprise, comme interrogation, comme étonnement, comme contestation.
Et avec les nouvelles, c'est un genre suffisamment aussi peut-être court et accessible pour aller dans des écoles, rencontrer des jeunes enfants et peut-être justement venger un enfant triste dans votre recueil, Christiane Taubira. Un enfant qui a subi l'autoritarisme d'un mauvais directeur d'école, alors qu'il avait un grand avenir sans doute devant lui. C'est bien aussi d'aller rencontrer les enfants à l'école.
Oui, bien sûr. Moi, je vais beaucoup. Alors, je vais davantage dans les universités, les lycées, parce que j'ai plus l'habitude des ados et des jeunes adultes. Mais je vais aussi parfois dans des collèges. Il m'est arrivé de m'aventurer dans des écoles élémentaires, mais je sais que je m'aventure parce que je dois faire attention à mon vocabulaire. Je dois, voilà. Donc, je le fais volontiers parce que c'est délicieux en fait, cette curiosité des enfants, cette formulation par ces jeunes esprits, c'est absolument savoureux. Mais après, la difficulté de l'exercice pour moi, c'est comment y répondre au plus juste et au plus précis. Oui, cet enfant, alors figurez-vous que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils connaissaient des cas comme ça. Des enfants dont la trajectoire a été cassée comme ça. Alors plus souvent justement un directeur d'école qu'un enseignant. Parfois par un enseignant, mais plus souvent par un directeur d'école. Donc, qui règle des comptes, c'est-à-dire que c'est pas l'enseignant en tant qu'enseignant, le directeur d'école en tant que directeur d'école, mais des adultes qui sont dans cette position-là et qui, pour régler des comptes qui doivent s'exprimer dans l'espace social et pas à l'école, peuvent prendre un enfant en otage. Donc, voilà, c'est effectivement une histoire très triste. Très triste dans la mesure où cet enfant était confronté à ça, mais c'est pas une histoire qui écrase dans la mesure où cet enfant en grandissant
il va se relever.
Voilà, absolument.
Comme
absolument.
Tous vos personnages, Christiane Taubira.
Oui, ce sont de belles personnes, mais c'est pas de la fiction pure, c'est-à-dire que je cherche pas de happy end. Je raconte des histoires de gens qui se battent, qui chancellent, qui vacillent, qui tombent même complètement et qui griffent le sol avec leurs ongles, s'écorchent les genoux, mais arrivent à se relever, quoi. Arrivent à se relever, redressent la tête et arrivent à se relever. Et je connais des personnes comme ça. Je connais vraiment des personnes comme ça. Je n'invente pas.
Et elles sont dans votre livre. Avec ce mot de la fin, il faut vivre, qui sont les derniers mots de ce recueil de nouvelles. Merci beaucoup, Christiane Taubira.
Il faut vivre dans un éclat de rire.
Exactement. D'être venue nous parler de ce nouveau livre qui a paru aux éditions Robert Laffont, ces morceaux de vie, trois petits points, comme carreaux cassés. Merci.
Merci à vous, merci de m'avoir reçu.
Et pour finir cette émission, je vous invite maintenant à découvrir la Villa Albertine. Après l'Italie, le Japon et l'Espagne, c'est aux États-Unis que vient de s'ouvrir la nouvelle institution culturelle de la France qui, depuis plus d'un siècle, s'inscrit à l'étranger. Mais à l'échelle de l'immensité du pays, la résidence d'artistes se décline exceptionnellement non pas dans une ville, mais 10, de New York à Los Angeles en passant par la Nouvelle-Orléans ou Chicago. Autant de lieux pour accueillir des cinéastes, des architectes, des musiciens, danseurs et autres créateurs français. Et parmi les premiers, les premières à participer à la saison 1 de cette Villa Albertine, dont le directeur est Gaëtan Bruel, deux écrivaines qui, dans une rencontre impromptue, partagent leurs réflexions sur ce projet et leur prochain départ. Marie Dariussec, Constance Debré, vous êtes deux des écrivaines qui partaient donc en résidence à cette nouvelle Villa Albertine. Qu'est-ce qui vous a décidé l'une et l'autre de partir dans cette aventure, Constance Debré?
Je crois que c'est difficile de pas dire non pour commencer. Et non, c'est absolument génial, je pense, pour des artistes et pour ma part, pour un écrivain français, de passer un peu de temps aux États-Unis, de voir ce qui s'y passe. En vrai, je crois qu'on a quand même besoin de sortir de nos habitudes et de notre pays, et que New York, c'est là que je vais, reste un endroit fondamental pour nous, tout simplement.
Et vous, Marie Dariussec, vous partez où ?
Moi, je pars à Los Angeles. Là aussi, difficile de résister à cette ville mythique, mythologique, la ville de Hollywood, et puis une ville que je connais par ailleurs, et j'avais envie de... Enfin, on m'a proposé un sujet, à vrai dire, qui me laisse un peu perplexe, c'est les réseaux sociaux. Sachant que moi, je n'y suis pas. Du coup, je viens d'ouvrir un compte Instagram, histoire de ne pas m'envoler idiote. Mes enfants m'apprennent un peu. Mais je crois que ce qui intéressait justement les gens qui m'invitaient là-bas, c'était quelqu'un d'assez candide, naïf par rapport aux réseaux sociaux. Donc je vais découvrir, ça va durer 5 semaines, c'est assez long. Donc je suppose que je vais écrire, puisque j'écris quand même la plupart du temps. Mais aussi bien non, et j'écrirai au retour. J'ai un projet avec un metteur en scène là-bas, donc on va voir ce que ça donne. Tout ça est très récent quand même, hein, donc c'est en train de se mettre en place. Et la perspective de dialoguer avec des écrivains américains, est-ce que c'est aussi une des motivations pour vous, Constance Debray?
On verra, mais de oui, bien sûr, en tout cas, de voir d'autres choses que les gens qu'on voit habituellement, c'est-à-dire essentiellement des Français. Je pense que c'est peut-être une des choses qui nous manque, nous, écrivains français, de se confronter plus souvent, de se nourrir aussi d'étrangers. Et oui, je suis très contente de ça, bien sûr.
Oui, donc un échange bilatéral. Est-ce que la littérature américaine est une littérature particulière pour l'une ou l'autre ?
Oui, évidemment. Enfin, je lis beaucoup d'auteurs américains, trop d'ailleurs. Il y a un gros problème de disproportion. C'est pas du tout symétrique. On n'est pas attendu là-bas. Il faut faire le forcing. Hein. D'ailleurs, avec ce qui s'appelait le travel ban, moi, j'ai dû légèrement reporter mon départ. Enfin, ils nous attendent pas. Il faut pas croire. C'est à nous de nous imposer là-bas ou d'essayer. C'est hyper difficile. Je suis à peine traduite en anglais. C'est très difficile le marché américain, comme on dit. C'est une leçon d'humilité. Hein. On n'est pas attendu. Donc c'est pour ça que je ségrerai aussi à cette villa albertine qui se monte là, qui se crée, pour essayer d'entrer sur le territoire américain. Ils lisent en anglais, ils sont assez peu accueillants aux autres cultures, faut pas se leurrer, hein. Donc ça va pas être de la tarte tous les jours non plus.
Donc c'est aussi une façon de participer au rayonnement de la littérature française et de la langue française.
C'est aussi pour ça qu'on y va, il faut jouer les jeux, c'est sûr. Oui. Et puis ça, c'est de bonne guerre, voilà, c'est de bonne guerre. C'est tellement inégalitaire par rapport à l'impérialisme américain littéraire, hein. C'est pas seulement cinématographique. Ils nous lisent très très peu. Hein.
Constance Debray ?
Ah oui, ça me paraît essentiel. Et un des diplomates qui présentait le projet tout à l'heure parlait de, j'ai bien aimé l'expression, de guerre des narratifs.
Ça m'a frappé aussi. Guerre des narratifs.
Ouais. Guerre des narratifs.
Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ?
Ça, c'est pas mon expression, et je pense que eux savent très bien ce qu'ils entendent par là, mais on comprend très bien qu'il y a aussi un enjeu de un enjeu culturel de faire entendre ce que nous aussi on a à dire de la réalité contemporaine.
Quand vous dites nous, est-ce que c'est aussi nous, femmes auteurs, ou pas?
Non, ça me fait penser à, c'était une expression, enfin, qui est, un des auteurs qui a popularisé cette expression, c'est Chinua Achebe au Nigeria, we've got to tell our own story. D'ailleurs, il le disait en anglais, hein, pour le coup. Mais il faut raconter sa propre histoire, son propre récit avec ses propres mots, en tant que femme, effectivement aussi, en tant que française, européenne essentiellement. C'est un récit qui est pas très entendu aux États-Unis en ce moment, ça c'est sûr. Ils ont pas une curiosité immense pour ce récit-là. Voilà, c'est comme ça.
Le récit français ou le récit des femmes?
Le récit qui n'est pas centré sur les États-Unis, hein, essentiellement. Enfin, moi, je les connais bien, j'y vais quand même très souvent. Évidemment, je parle anglais là-bas, mais c'était d'ailleurs un des critères pour partir dans ce programme. Il y a une francophilie très jolie à New York, essentiellement, à Chicago un peu, à Los Angeles moins. Il ne faut pas se leurrer, on est un petit pays. Hein. L'Europe, on peut lutter, mais la France, on est un petit pays.
Et vous, Constance Debray, vous partez dans un état de guerre ou dans un état de séduction?
C'est pas toujours très différent.
Ici se referme cette émission exceptionnelle avec Marie Darieusec et Constance Debray pour la Villa Albertine et bien entendu Christiane Taubira pour ce grand entretien diffusé en deux parties hier et aujourd'hui, que vous pouvez réécouter sur le site de RFI.fr en cliquant sur l'onglet podcast, puis sur le magazine Littérature sans frontières. Et pour ne manquer aucun de nos numéros, vous pouvez aussi vous abonner à l'émission sur vos plateformes préférées. À très bientôt.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. En sol majeur.